OK, alors on va commencer le cours. Je vous invite à prendre place. Ce matin, on va faire quelque chose pour ceux qui sont dans ma classe. Il n'y aura pas d'amplification dans les haut-parleurs. On veut essayer d'avoir un cours un peu plus intime. Alors, je vous demanderai de vous avancer, s'il vous plaît, ceux qui sont avec moi. Là, vous entendez dans les haut-parleurs, mais ça va durer quelques instants, d'accord? On veut juste essayer d'être un petit peu plus proche ensemble pour échanger, puis que j'ai un contact visuel avec vous. Est-ce que c'est possible aussi, Oscar, Caroline et Nathalie, est-ce que ce serait possible d'allumer les lumières derrière moi? Je trouve que c'est sombre ici en avant. Merci. OK, alors on vous invite à aller dans vos groupes, s'il vous plaît. Monsieur Latour, Monsieur Prévost, Monsieur Gaudin. Paul Gaudin. OK, alors on va pouvoir couper le son, s'il vous plaît. On fait un test, d'accord? Donc, comme j'ai dit, il n'y aura pas d'amplification. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, avancez-vous. C'est bon? Il est gentil un matin, lui. Il arrive de vacances. Ah, ils sont gentils là-bas. Ils sont plus gentils que moi. OK, alors bienvenue dans le cours « Connaître Dieu », la leçon 6. La leçon 6. Comme je vous dis, on aimerait ça avoir un feeling qu'on est un petit peu plus près. Je le sais que vous avez vos sièges réservés, vous avez payé votre dîme cette année pour réserver vos bancs. Mais quittez l'Église catholique un instant, puis venez vivre ça ici en communion, tout proche les uns des autres. C'est bon? Donc, on est dans la leçon 6. Oui, vous ne m'entendrez pas là, vous allez m'entendre juste direct ce matin. C'est pour ça que je vous demande de vous approcher. D'accord? Est-ce que ça va, Nathalie, pour suivre en arrière? Tu m'entends assez? OK, on verra. Si ça ne marche pas, on va retourner dans le haut-parleur. On va aller ensemble dans un mot de prière. On est dans le cours « Connaître Dieu », leçon 6. Ce matin, on couvre les chapitres 7 et 8 du livre de G.I. Packer, « Connaître Dieu ». Bien, Père éternel, on veut te remercier pour le plaisir de se retrouver en Église. Seigneur, ce matin, je veux confesser qu'en me levant, j'étais grumpy, j'étais grognon. Seigneur, mon cœur n'était pas rempli de ton esprit. Et chaque instant qui passait, Seigneur, semblait me contrarier. Je veux le reconnaître devant toi parce que toi, tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même, Seigneur. Tu n'es pas un être en devenir, tu es celui qui est. Et c'est auprès de toi, Seigneur, qu'on se rassemble ce matin. C'est auprès de toi qu'on veut trouver notre repos, notre calme, notre joie, Seigneur. Alors, je te prie de venir nous remplir de ton Esprit Saint ce matin, de venir nous éclairer par la beauté, la splendeur de ta personne. Viens, Seigneur, nous donner une fraîche révélation vient illuminer les yeux de notre cœur afin que nous saisissions, Seigneur, ta beauté et que notre foi, notre quotidien, nos journées, Seigneur, en soient embellies, en soient fortifiées, en soient apaisées. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, si vous êtes de ce côté-ci des colonnes et que vous ne m'entendez pas, faites-moi signe, juste l'oreille, je vais m'ajuster. Si vous êtes de l'autre côté, avancez-vous. C'est bon? On va essayer d'être un petit peu plus intime ce matin, comme je disais, pour ceux qui sont arrivés un peu après. Là, c'est volontaire, s'il n'y a pas d'amplification dans la salle, c'est juste pour qu'on soit un groupe ici ensemble. D'accord? Alors, vous pouvez juste vous avancer un petit peu. Lorsqu'on va vers le Dieu de la Bible, il y a une réalité qui nous frappe assez rapidement. Peut-être moins pour les gens qui ont été élevés dans la foi, dans l'Église, qui entendre parler de Dieu depuis leur enfance, le choc culturel est moins évident, d'accord? Alors moi, j'ai commencé à fréquenter cette église à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à entendre les histoires très, très tôt. Donc pour moi, le baseball et les expos, puis Gédéon qui se promène, ou David avec sa fronde, ça faisait partie de ma culture tout autant l'un que l'autre. Maintenant, si on vient à connaître la foi, à connaître Dieu, à être initié au sein des Écritures, plus tard dans notre vie, il y a un choc culturel immense qui vient, puisqu'on s'en va à la rencontre d'un Dieu qui a parlé, qui s'est révélé il y a très longtemps, dans une culture qui nous est étrangère. Et on apprend à connaître ce Dieu-là alors qu'il adresse des questions qui semblent très distantes de nous. D'accord? On rencontre un Dieu qui apparaît, qui se révèle à Abraham, un Dieu qui va apparaître dans un buisson ardent, des anges qui apparaissent, des contextes où les gens font la guerre avec une violence qu'on a de la difficulté parfois à imaginer. Au moins en Occident, on a l'impression que ça ne fait pas partie de notre réalité, ce qui n'est pas tout à fait le cas, là, d'accord? On a d'autres formes de violence assez terribles, mais tout ça peut vraiment donner un sentiment de distance. Puis là, on s'en va rencontrer ce sauveur qui marche en gougoune, qui fait des miracles, qui adresse des questions morales qui semblent plus ou moins être les nôtres. Et donc, tout ça peut assez rapidement créer une espèce de fossé, nous donner l'impression qu'on est en train d'essayer de rencontrer un Dieu d'un autre temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vécu ça lorsque vous avez commencé à lire les Écritures. Et ce que ça peut faire en nous, c'est le sentiment que toutes ces choses-là, c'est de l'information super intéressante, mais peut-être pas très, très personnelle. D'accord? Avant d'avoir le sentiment, lorsque je suis en train de lire la Bible, lorsque je suis en train de méditer sur les Écritures, lorsque je suis en train de prier, avant d'avoir le sentiment que ce que je suis en train de vivre là peut être aussi intime qu'aller prendre un café avec un ami, il peut y avoir tout un saut. Et plusieurs d'entre vous, vous l'avez vécu, d'accord? Moi, personnellement, j'ai pas vraiment vécu ça. Je le vis encore par moments. Il y a des moments où j'ouvre la Bible et je dis, « Seigneur, ça ne me parle pas. » J'ai l'impression que je lis un livre encyclopédique qui me parle de toi. Mais je n'ai pas l'impression que je vais en prendre un café avec Louis et on est en train d'échanger cœur à cœur. J'ai l'impression que je lis une fiche technique sur Louis. D'accord? Et donc, ça m'arrive encore de vivre ça. Mais en même temps, quand je me suis converti, je n'ai pas vécu ce choc-là. J'ai ouvert les Écritures, puis toute cette culture-là, toute cette histoire-là m'était déjà connue. Je comprenais déjà comment ce Dieu-là s'était révélé. Et donc, je lisais les Écritures, puis rapidement, je méditais la parole de Dieu. Il est avec Oscar. Donc, rapidement, je lisais les Écritures et j'étais capable de méditer la parole et j'avais ce sentiment profond que Dieu est en train de me parler. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que le seul facteur, c'est une question culturelle. Ça prend l'Esprit Saint en nous pour qu'il vienne éclairer nos cœurs et toucher nos cœurs et que la parole vienne vraiment avoir un impact dans notre vie. Fait qu'il y a cet autre facteur-là aussi. Je ne parle pas de ça ce matin, d'accord? Mais c'est définitivement là. Alors, plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté aussi, au moment de votre conversion, quelque chose qui s'est passé dans votre intelligence, puis pouf, les Écritures ont pris vie, d'accord? Mais ça n'empêche pas le fait que la distance du temps, de la culture, de l'époque, des manifestations surnaturelles de Dieu, des questions éthiques qui peuvent sembler tellement loin des nôtres aujourd'hui, peuvent faire qu'on a l'impression que c'est dur d'aller connecter avec ce Dieu-là, d'accord? Et j'aime vraiment ce que G.I. Packer est en train de faire. La solution que lui nous propose, c'est qu'il nous dit, on ne cherche peut-être pas la bonne place pour réussir à trouver ce sentiment où on peut connecter avec ce livre-là qui semble très, très distant. On s'arrête sur ces questions-là extérieures, mais peut-être qu'on ne cherche pas la bonne place. Est-ce que ça va à date? Vous arrivez à me suivre? Ou c'est trop difficile avec le son? Ça va? Ça va assez bien? OK, merci. Monsieur Packer dit peut-être qu'on ne cherche pas la bonne place. Peut-être qu'on devrait tourner nos regards vers la personne de Dieu lui-même et aller rencontrer ce Dieu-là pour réaliser que ce Dieu-là, en réalité, n'a jamais changé. Si vous allez à la page 2 dans les notes, là, s'il y en a qui n'ont pas pris les notes, elles étaient sur la petite table en rentrant. Au haut de la page 2, Monsieur Packer pose cette question-là. Il dit, « Si Dieu est exactement le même hier, aujourd'hui et demain, qu'est-ce que cela peut changer dans notre relation avec lui? Si c'est la même personne, il n'a pas changé. » Alors, lorsque je me tourne vers la Bible, j'ai l'impression de m'adresser à un Dieu du passé, mais le Dieu qui a parlé dans le passé est identique aujourd'hui. Il est exactement le même. Il n'a pas changé. D'accord? Donc, ce qu'il a dit à l'époque, je peux me l'approprier parce qu'il est le même aujourd'hui. L'époque a changé. Les mœurs ont changé, l'éthique a changé, les coutumes sont différentes de celles de ce pays-là ou de ces pays-là à cette époque-là. Mais l'auteur lui-même qui parle est exactement le même. Au haut de la page 2, on a cette citation. Le Dieu auquel ils avaient affaire est le même que celui auquel nous avons affaire aujourd'hui. Nous pourrions même dire exactement le même. Car Dieu ne change pas et il ne saurait y avoir en lui la moindre modification, la moindre variation. Il existe donc une vérité sur laquelle nous devons nous appuyer pour dissiper cette impression de gouffre infranchissable entre les hommes de la Bible et nous-mêmes. Et cette vérité, c'est l'immutabilité de Dieu. Dieu est exactement le même. Et là, je vais me permettre une citation qui n'était pas dans le livre de Packer, mais je la traduis après, d'accord? Pour ceux qui ne saisissent pas l'anglais. C'est un autre théologien, M. Bavick, qui dit ça. The doctrine of God's immutability is of the highest significance for religion. The contrast between being and becoming marks the difference between the creator and the creature. Every creature is continually becoming. It is changeable, constantly striving, seeks rest and satisfaction, and finds this rest in God, in Him alone. For only He is pure being and not becoming. Hence, in Scripture, God is often called the rock. Le point que M. Bavink veut faire ici, c'est la différence entre être et devenir. Il y a une seule personne, je vais dire une seule chose, un seul être dans l'univers qui est. Tous les autres sont en devenir. Vous et moi, on est en devenir. D'accord? Dieu est. Lorsqu'il se présente, il dit « Je suis celui qui est ». Il y a une différence fondamentale dans tout ça. Chacun d'entre nous, parce qu'on est en devenir, ça génère en nous de l'incertitude. Qu'est-ce que je vais être demain? Ma santé est moins bonne qu'hier. Là, moi, c'est ma nouvelle obsession, c'est la mémoire. Ma mémoire n'est pas aussi bonne que voilà 3 ans. Ça me fatigue terriblement. Et ça crée toutes sortes d'insécurités, toutes sortes de frustrations. Parce que je suis un être en devenir. Je ne suis pas stable dans le temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais être demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Où est-ce que je vais être? Qui est-ce que je vais devenir? Avec qui est-ce que je vais être en relation? Tout est en devenir pour moi. Pour chacun d'entre nous. Dieu est. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de jongler avec ce concept-là, avec cette idée-là, mais si c'est quelque chose avec laquelle vous pouvez vous amuser dans votre tête, je vous encourage à le faire, à méditer là-dessus. Dieu existe hors du temps. D'accord? Dieu n'est pas affecté par le temps, c'est Dieu qui a créé le temps. Donc, ta naissance, ta vie, ta mort, pour lui, c'est un seul moment. Lorsqu'on dit « Dieu a pardonné nos péchés passés, présents et à venir », dans son esprit, à lui, Dieu a pardonné nos péchés présents. Est-ce que vous me suivez? Dieu a pardonné, point. Il n'y a pas d'avenir dans l'esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'il a inscrit, qu'il a créé pour nous, qui sommes des êtres en devenir. D'accord? Donc, lorsque Dieu a inspiré ce livre-là, il voyait les élections au Québec en 2014. En même temps, il voyait la commission Charbonneau. Il voyait la petite Kéliane pour qui on prie, qui est en train de se battre pour sa vie, pour sa santé, la petite dernière des Vincent. Lorsque Dieu a écrit ça, c'est tout là. Quand Dieu a créé la terre, devant ses yeux, il y a la fin du livre de l'Apocalypse. Donc Dieu est. Et lorsque je m'en vais vers les Écritures pour connecter vers ce Dieu-là, moi je vis dans le temps, donc moi je sens cette distance-là. Pour lui, il n'y a aucune distance entre Abraham et Yannick. Ces deux personnes qui ont été conçues dans l'Esprit de Dieu au même moment. Nos jours étaient présents devant ses yeux en même temps. Et donc, pour nous, comme chrétiens, il y a un trésor extraordinaire à réaliser ça. Réaliser que Dieu ne change pas. Ça va affecter ma lecture des Écritures. Lorsque je vais aller lire la Bible, je m'en vais vers le Dieu qui est, pas le Dieu qui était. Oui, mais Dieu, tu faisais de grandes choses à cette époque-là. C'est exactement le même Dieu. Il décide ce qu'il fait quand il fait, c'est tout. Oui, mais Dieu, il me semble que c'était plus évident de croire en toi dans ce temps-là. C'est le même Dieu, c'est exactement. Autrement, il n'est pas Dieu, vous comprenez? Autrement, il est un être qui est en devenir. Et nous, au contraire, on apprend, on vieillit, on ne sait pas de quoi il fait demain. Cette semaine, c'est les Larose, gros projet, Seattle, wow, grosse affaire. Plein d'insécurité, plein d'incertitude. Dieu, lui, c'est tout fixe devant lui. Et donc, il y a vraiment un trésor extraordinaire pour nous, comme êtres qui sommes en train de changer constamment dans l'inconnu pour demain, d'aller vraiment se grounder, d'aller se connecter sur Dieu qui est ce roc-là. Parce que lui, il ne change pas. Et donc, lorsque moi, j'arrive dans ma journée, puis il y a une mauvaise situation qui se passe, pour Dieu, c'est dans le présent que ça se passe. Pour lui, il n'y a pas de surprise, c'était là. Tout ce qu'il me demande, c'est de rester connecté sur lui, en sachant que lui est dans le présent constamment. Il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé. Il est toujours là, il est toujours dans l'immédiat. On va aller voir ça ensemble un petit peu. Le Dieu qui ne change pas. Alors, différents aspects, d'accord, de la personne de Dieu. Sa vie ne change pas, sa personnalité ne change pas, la vérité de Dieu ne change pas, les voies de Dieu ne changent pas, les desseins de Dieu ne changent pas. Puis enfin, le Fils de Dieu lui-même ne change pas, évidemment, puisqu'il est Dieu lui-même. Alors, la vie de Dieu ne change pas. Dieu est éternel. Psaume 93, verset 2. Il est de toute éternité. Dans Jérémie 10:10, on lit « un roi éternel ». Dans Romains 1:23, « le Dieu incorruptible ». Ça ne veut pas seulement dire que c'est le Dieu qu'on ne peut pas acheter avec des petites enveloppes brunes, mais c'est le Dieu qui ne se corrompt pas, donc qui rouille pas, qui vieillit pas. Quelques-uns d'entre nous, on est plus proche de la fin que le début, on sait qu'on rouille, on sait qu'on est en train de se corrompre, d'accord? Puis le corps, la machine ne marche pas aussi bien qu'avant. Dieu ne change pas. Dieu est identique. Sa vie ne change pas, ne s'altère pas. C'est celui qui possède l'immortalité, nous dit 1 Timothée 6:16. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, il est Dieu. Moi, j'aime bien cette image de me dire Dieu existe hors du temps. Ça, pour moi, c'est philosophique, là, je comprends, c'est très intangible. Mais en même temps, pour moi, l'éternité, lorsque je la situe hors du temps, ça m'aide énormément. À saisir un petit peu mieux, ça veut dire quoi l'éternité? J'imagine la ligne du temps, de l'histoire de l'univers. Puis, j'imagine Dieu à l'extérieur de cette ligne du temps-là. D'accord? Pour lui, tout ça, ça se passe en un instant. Donc, sa vie ne change pas. Alors que nous sommes des êtres en devenir. Fait que je vous invite à méditer sur ça cette semaine. Prenez juste ces deux mots-là, être puis devenir. D'accord? Nous sommes tous des êtres en devenir. Dieu n'est pas un être en devenir. Les théologiens... lutte avec ça parce que qu'est-ce que ça a comme implication? Ça a des implications éthiques importantes. Ça veut dire que quand Dieu a conçu l'univers, Satan était dans le plan de match. Quand Dieu a conçu l'univers, ça veut dire que tous les malheurs du monde actuellement sur la Terre étaient dans le plan de match. C'est Dieu. S'il n'avait pas voulu permettre, je ne suis pas en train de dire que c'est dans ce qu'il souhaite, mais dans ce qu'il permet, s'il n'avait pas voulu permettre toutes ces choses-là, ça ne se serait pas produit, d'accord? Mais en même temps, si mon Dieu est plus petit que ça, il n'est pas Dieu. Alors, il y a eu tout un courant théologique dans les 10 dernières années. On appelle ça de « open theism ». C'est la théologie c'est une pensée qui dit éthiquement, ce n'est pas viable. Ça ne se peut pas que Dieu, éthiquement, voit toutes ces choses-là. Il n'arrivait pas à accepter ce Dieu-là qui voyait tout le mal qui allait venir puis qui permettait tout ça, puis c'était dans ses desseins. Alors, ils se sont dit, non, ça ne se peut pas. Et ils n'arrivaient pas à réconcilier le libre arbitre de l'homme, la responsabilité de l'homme de faire des choix avec un Dieu qui existe à l'extérieur du temps et un Dieu qui a arrêté ses desseins. Dieu a des projets, on va le voir ensemble, ses projets sont arrêtés. Fait que là, on a un problème dans notre tête, on n'arrive pas à réconcilier. Oui, mais comment l'homme peut être responsable si c'est Dieu qui a arrêté toute chose? Puis, honnêtement, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je suis en devenir, ça va? Lui, il est, ça va? Mais donc, parce qu'ils avaient de la difficulté avec ces questions-là, ils ont développé cette théorie de « open theism ». C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est que pour Dieu, Dieu voit dans le futur et Dieu voit toutes les possibles. J'ai déjà abordé ça il y a quelques mois, d'accord? Dieu voit toutes les possibles. Il y avait un film avec Nicolas Cage. C'est quoi le film où il voyait comme 25 secondes, 30 secondes? C'est quoi? Next. Combien de temps il voyait d'avance? Une minute? Une minute trente. Fait qu'il est là, puis comme un don, il voit le futur une minute trente d'avance. Avec toutes ses mais comme dans un périmètre limité à lui, là. Puis avec toutes les possibilités. Fait que là, il dit, bon, mais si j'échappe ma tasse de café, il va se passer ça, la serveuse va venir ici, elle ne parlera pas avec lui. Donc, ben, puis là, il voit toutes les possibilités. Il fait toujours des choix en conséquence de ça, d'accord? Alors, cette doctrine-là de open theism, elle voit Dieu comme ça, mais jusqu'à l'infini. Dieu voit tous les possibles, et suivant les choix de chaque être, dans tout ça, Dieu fait des choix, d'accord? Mais le problème avec cette doctrine-là, qui a jamais été acceptée à travers toute l'histoire de l'Église, d'accord? C'est très récent comme doctrine. Puis elle est fermement, fermement attaquée par tous ceux qui croient dans l'inspiration des Écritures. Le problème avec cette doctrine-là, c'est que ça attaque la souveraineté de Dieu. Donc Dieu ne choisit pas la destinée de l'humanité. Il fait des choix selon les choix de chacun. Il s'adapte aux choix de tout le monde. D'accord? Et donc je peux pas voir Dieu comme à l'extérieur du temps en ayant fait des desseins, des choix, des projets arrêtés. D'accord? Dieu est à l'extérieur du temps, puis il voit toutes choses, et il est éternel. Sa vie ne change pas. Donc, Dieu n'est pas en train de s'adapter constamment à nous. Il règne. C'est lui qui dirige. Ça amène des difficultés dans notre esprit. Maintenant, premièrement, c'est comme ça que la Bible nous révèle qui est Dieu. Puis dans mon expérience personnelle à moi, c'est d'un réconfort absolument extraordinaire. D'accord? Tout ce qui me reste à faire, c'est me soumettre à ce Dieu-là. Parce que lui sait ce qu'il fait, ses desseins sont arrêtés, il est en train d'accomplir ses desseins à la perfection. Il n'est pas tributaire de chacun de mes choix. La personnalité de Dieu ne change pas. Alors nous, on a des personnalités en évolution. Mon épouse, elle trouve que j'évolue pas vite. Mais on a des personnalités en évolution. Par exemple, je pense à Danny Gosselin. Dernièrement, on jasait ensemble, puis... Il y a un frère qui lui dit, parce qu'il parlait de ministère avec les enfants, puis tout ça, puis animé. Puis le frère, il dit, « Ouais, mais pour toi, c'est naturel, c'est simple, ça. C'est facile pour toi. » Là, Danny l'a regardé, puis il a dit, « Attends un petit peu, là. C'est parce que tu ne m'as pas connu il y a 3 ans. » D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Danny a pris des risques, on l'a exposé, tout ça, puis hop, tu le rencontres, c'est pas la même personne. Vendredi soir, on a reçu des gens à souper chez nous, puis on commence à jaser, puis on fait connaissance. Fait que les gens nous demandent, ils disent, ils me demandent, Yannick, toi, es-tu sportif? Bien, je dis, moi, je réponds toujours avec mon histoire à moi. De toute évidence, je ne suis pas sportif. C'est évident que je ne suis pas sportif. Je n'étais pas au soccer, je faisais pas des sports d'équipe, j'étais un nerd, je n'étais pas sportif. Mais là, il dit, ouais, mais tu fais du karaté, puis tu t'entraînes X heures par semaine. Ah, je dis, ouais, c'est vrai. OK, mais peut-être que je suis plus qu'avant, mais pas les sports d'équipe. Fait que là, j'ai précisé. Vous voyez? Donc, moi, je change. Chacun d'entre nous, dans notre personnalité, on change. Dans notre caractère, on change. Dieu merci, on change. D'accord? Dieu ne change pas. Dieu ne change. Il n'y a pas d'amélioration à apporter à Dieu. Il n'y a pas besoin d'être un peu plus patient, un peu plus doux, un peu plus gentil, un peu moins grognon. Non. Il est parfait depuis toujours. Il est hors du temps. Il ne change pas. Et donc, lorsque Dieu se révèle aux hommes, ben, il veut essayer de venir nous rejoindre dans notre capacité très limitée d'appréhender, de saisir qui est Dieu. Et voici ce qu'il nous dit dans Exode 3:14. Il dit, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est. » La version abrégée, ça veut dire « Yahvé ». Il dit « Je suis », tout simplement. Tu veux essayer de saisir qui je suis? Je suis. Ouais, mais t'es-tu comme gentil? Ben oui, je suis parfait. Est-ce que tu es comme ça? Oui, je suis parfait. OK, puis tu étais comment avant? J'étais. Il n'y avait pas d'avant. Je suis. Donc, dans sa personne, il ne change pas. Fait que quand je m'en vais lire les Écritures, puis je rencontre le Dieu de l'Ancien Testament, comme je vous l'ai partagé dernièrement, un de mes amis qui se dit semi-chrétien, Il dit, moi, le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Jésus, c'est vraiment cool, mais Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Je dis, non, tu es sur la mauvaise piste, là. Dieu n'a jamais changé. Le Dieu de l'Ancien Testament est exactement le même que celui du Nouveau Testament. C'est le même devant qui tu vas te présenter quand tu vas mourir. C'est Dieu de l'Ancien Testament. Alors là, je m'en vais lire les Écritures en réalisant ça. Des fois, ça peut être terrifiant, n'est-ce pas? Puis d'autres fois, ça peut être extrêmement réconfortant. C'est exactement le même Dieu, il ne change pas. La vérité de Dieu ne change pas. Ésaïe a écrit, « Toute chair est comme l'herbe, l'herbe sèche, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Donc, dans son éthique, dans ses promesses, dans ses déclarations, Dieu ne change pas. Des fois, on aborde les Écritures, puis on se pose des questions à savoir, est-ce que ça, c'était culturel à l'époque, puis peut-être que ça ne s'applique pas à notre époque. Ça vaut la peine de se poser ces questions-là. Il y a des choses qui, c'est vrai, d'accord? Mais la vérité que Dieu est en train de communiquer sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut, ça ne change pas. C'est exactement le même. Il est toujours le même. Et donc, je vais lire les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse comme provenant de la pensée d'un seul être qui n'a jamais changé dans ses convictions, dans ses désirs, dans ce qu'il veut, dans ce qui est bien, dans ce qui est mal. C'est exactement le même. Ça, c'est super important. Quand j'essaie de comprendre l'Ancien Testament, par exemple, ben, on va dire, okay, dans une église comme ici, vous entendez souvent des enseignements là-dessus, là, fait que ça va peut-être de soi, mais les gens à qui vous allez parler de Dieu, ça ne va pas nécessairement de soi. Lorsqu'on dit, par exemple, que tout l'Ancien Testament nous aide énormément à comprendre l'Évangile, ce qui se passe à la croix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce que je viens de dire là? En quoi est-ce que l'Ancien Testament m'aide à comprendre ce qui se passe à la croix? Karine? Les sacrifices. Élabore un petit peu, s'il te plaît. Le pardon des péchés par le sacrifice, oui. OK, Simon? OK, donc l'aspect prophétique qui annonçait la venue de Jésus. OK, l'incapacité, ça t'a dit? Ou la capacité? L'incapacité de l'homme à satisfaire la justice de Dieu. On le voit partout dans l'Ancien Testament. Avec quelqu'un d'autre? Oui. La loi dans l'Ancien Testament qui a servi de pédagogue pour révéler le cœur de l'homme. Alors là, actuellement, on est dans le livre des juges. Tout à l'heure, dans le message, on va être dans le livre des juges. C'est violent comme livre, cette affaire-là. En quoi est-ce que les massacres faits dans l'Ancien Testament m'aident à comprendre la croix? C'est la miséricorde, j'ai l'impression que c'est le jugement. Mais... Ou sinon, on est tous condamnés. Dieu nous fait miséricorde. Alors, quand je m'en vais vers le Dieu de l'Ancien Testament... Oui, vas-y, Karine. Alors, Dieu haït profondément le mal. Et lorsque je suis en train de lire les guerres dans l'Ancien Testament, puis je vois Dieu qui dit à son peuple, là, vous rentrez là, vous rasez tout. C'est tous des pécheurs, ils sont tous damnés. Puis là, je suis scandalisé. Je me dis, puis plusieurs d'entre vous, là, quand vous les lisez, ça vous fait encore mal, ça. Je respecte ça, là. Je respecte ça. Mais le réflexe que vous devez développer, le réflexe que vous devez développer, c'est prendre ça, puis là, dire, OK, attends un peu, je reviens, Dieu. Vous allez à la fin de l'Apocalypse, puis vous allez au jugement dernier. Puis là, vous partez à rire. Parce que là, vous dites, mais dans le fond, c'est rien ce qui se passe là. C'est juste un avertissement. Il y en a 30 000 qui se sont fait chauffer les fesses. Il y en a 7 milliards qui vont se faire chauffer les fesses. Là, je passe des guerres. Ça ne sera pas long, je vais venir à toi, Gérard. Je passe des guerres à l'Apocalypse. Mais avant, je devrais m'arrêter à la croix. Quand Jésus s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce que toute la colère de Dieu que tous les pécheurs de tous les temps méritaient et qui vont placer leur foi en lui auraient dû subir et tout tomber d'un seul trait sur la personne de Christ. Donc, lorsque vous lisez les guerres dans les juges, vous dites « OK, attends un petit peu, là, c'est pas 100 000 personnes qui vont mourir, c'est une personne qui va subir la colère de toutes ces personnes-là s'ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ. » C'est exactement le même Dieu. Oui, puis il va y avoir des, gens qui vont être sauvés là-dedans, mais ils sont jugés. Gérard? En Jésus. Oui, en Jésus, c'est ça. C'est un petit peu ce que François relevait aussi. OK, alors, c'est le même Dieu. Puis lorsque vous vous dites dans votre cœur, ben, je rencontre plus Dieu quand je lis les évangiles, quand j'écoute Jésus parler, je le comprends. Humainement, je le comprends moi aussi. Ça, je regarde Jésus, puis j'ai l'impression que j'irais plus prendre un café avec lui qu'avec celui qui est sur le mont Sinaï. Vous voyez, lorsque la foudre est en train d'éclater. Le hic, c'est que la voix de Dieu, c'est Christ. Lorsqu'il revient, c'est clair que le tonnerre, c'est Christ. C'est super clair. D'accord? Donc, il faut quelque part dans mon cheminement, dans ma foi, que je réconcilie tout ça ensemble. Puis que je comprenne que ce Jésus-là qui va vers la femme pécheresse puis qui l'accueille, c'est le même, c'est exactement le même qui détruit Uza lorsqu'il étend la main pour pouvoir empêcher l'arche de tomber. Il tombe mort. C'est le même. C'est le même. Et la seule différence entre Uza puis la femme pécheresse, ou Uza et moi, c'est la grâce qui m'a été faite par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la seule différence qui fait que la femme pécheresse pouvait toucher Jésus sans mourir. Ben c'est ça. C'est exactement ça. Madame Paradis me demande qu'est-ce que je pense du fait que Dieu a fait mourir Uza lorsqu'il a touché l'arche. C'est parce que, voyez-vous, ça, je l'ai déjà expliqué une fois, là, puis ça va un petit peu dans le sens de la leçon, fait que je peux prendre un instant pour ça. Nous, on a l'impression que Dieu peut arrêter d'être saint. OK? Mais j'aime cette situation-là avec Uza parce que pour moi, ça ressemble à un champ électrique. C'est comme si je vous disais, moi, je suis l'électricité. Je suis l'électricité, je ne peux pas ne pas être l'électricité. Tu veux-tu me toucher? Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Vous comprenez? Parce que je suis l'électricité. Dieu est saint. Il n'y a pas de switch là-dessus, non? Il n'y a pas de switch là-dessus. Pour que quelqu'un qui est impur puisse toucher à celui qui est saint, il va falloir qu'il soit rendu saint. Il faut qu'il soit rendu saint. Puis, à quelque part, dans la leçon d'Uza, ben exactement ce qu'on apprend, c'est essayer les hommes, juste pour le fun, de prendre vos propres moyens pour aller toucher Dieu. Essayez de le faire. Faites vos propres chemins, construisez votre tour de Babel, inventez vos religions, donnez-vous vos dieux, essayez de vous perfectionner par vous-même. Comme si, à force de tout ça, vous arriveriez à devenir l'électricité. Oui. C'est ça. On dit que l'enfer est pavé de plein de bonnes intentions. C'est ça. Oh oui, non, il avait désobéi. C'est clair qu'il avait péché. Il avait péché avant, déplaçant l'arche, dans la méthode qui est en train de la déplacer, tout ça. Tout ça. Mais la leçon que Dieu est en train d'enseigner, c'est pas Uza, t'es plus pire qu'un autre. C'est qu'on n'approche pas Dieu selon nos conditions à nous. D'accord? On approche Dieu comme étant Dieu. Il faut que j'avance avec la prochaine leçon. Oui. Il s'est moqué. C'est le fait qu'il s'est moqué. Oui, c'est le fait qu'il s'est moqué à ce moment-là. C'est parce qu'il s'est moqué de son père au lieu de le couvrir. Puis il n'avait pas à faire ça, il a manqué de respect à son père. C'est juste ça qui est là. Oui. Alors, le fait de saisir que Dieu ne change pas, ça me permet d'aller partout dans les Écritures puis d'interroger la parole de Dieu en disant « Qu'est-ce que je découvre sur celui qui est? » D'accord? Et si vous ne le faites pas, parce que vous dites, oui, mais j'ai de la difficulté à accepter cet aspect-là de Dieu, je vais le dire comme ça, d'accord? C'est que vous ne pourrez pas saisir vraiment, entièrement l'Évangile. Tu ne peux pas saisir la grâce si tu n'as pas besoin d'être gracié. Oui, mais Yannick, j'ai besoin d'être gracié, mais peut-être pas tant que ça. Ben, peut-être qu'il n'aurait pas sacrifié son fils. Il n'aurait peut-être pas besoin d'en faire tant que ça si tu n'avais pas besoin de la grâce tant que ça. Donc, je m'en vais dans les Écritures pour découvrir celui qui est. Puis, il y a des textes qui me troublent. On est dans le livre des juges. Il y a des passages extrêmement troublants dans le livre des juges, d'accord? Je m'en vais vers ces textes-là pour découvrir celui qui est. À travers ça, souvent, je découvre la bêtise des hommes, mais ça me parle aussi de Dieu. Ça va? La vérité de Dieu ne change pas. Tous tes commandements sont la vérité. Je vais passer au prochain point, le point 4, je m'excuse. Les voies de Dieu ne changent pas. Et ça, c'est quelque chose de super important. Lorsque vous êtes en train de dealer dans votre esprit avec toute la question du libre-arbitre puis toutes ces choses-là, il faut adresser la question des desseins de Dieu. Les desseins de Dieu sont toujours les mêmes. Les voies de Dieu ne changent pas. Il est toujours le même. Alors, au point 4, Dieu continue d'agir envers les hommes pécheurs comme il le faisait au temps biblique. Il continue toujours d'affirmer sa liberté, sa seigneurie en établissant entre les pécheurs une discrimination, donnant à certains et pas à d'autres l'occasion d'entendre l'Évangile, poussant certains de ceux qui l'ont entendu à la repentance, abandonnant les autres à leur incrédulité. C'est partout dans les Écritures, là. Je suis pas en train de tricoter de la théologie, là. C'est partout dans la parole, ça, là. Il fait ainsi comprendre à ses fidèles que rien ne l'oblige à la miséricorde envers qui que ce soit et que s'ils ont, eux, trouvé la vie, c'est par pure grâce de sa part. Pensez à Israël dans l'Ancien Testament. Combien de dizaines de fois Dieu dit à Israël, « Mais pensiez-vous vraiment que vous méritiez que je fasse de vous mon peuple? » C'est quoi le message de Dieu envers Israël? Israël est là, puis tu sais, il se targue d'être le peuple de Dieu, puis on est quelqu'un, puis là Dieu dit, mais voyons donc, vous pensez vraiment que vous êtes meilleur que le reste des hommes sur la terre? C'est ça le message constamment. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur rappelle que s'il leur a fait grâce, c'est par pure miséricorde, c'est par pure grâce, c'est de son propre chef à lui. C'est là constamment à travers tout l'Ancien Testament. Il hait toujours les péchés de son peuple et pour l'éloigner de toute compromission, tout compromis, de toute désobéissance, il lui envoie, comme autrefois, toutes sortes d'épreuves extérieures, de souffrances intérieures aussi, parce qu'il veut nous conduire à marcher dans la sainteté, à marcher comme Dieu. Ses desseins ne changent pas, j'ai mélangé les deux au début, là. Ses desseins ne changent pas, donc les projets de Dieu ne changent pas. Dans 1 Samuel 15, 29, on lit... Je m'excuse. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, lorsqu'à quelques reprises dans les Écritures, j'ai des moments où l'expression est carrément utilisée, Dieu se repent, Dieu se repentit d'avoir fait ça. Je peux pas lire dans ça que Dieu est en train de changer ses projets. Parce qu'autrement, je vais aller en contradiction. C'est vrai que Dieu, dans le temps, dans la ligne du temps, Dieu répond à des choix que je fais, mais ils étaient là dans ses desseins. D'accord? Parce que cette idée-là que les desseins de Dieu ne changent pas, c'est super clair dans les Écritures. Donc, ces projets sont arrêtés. Dieu n'a pas jonglé avec tous les choix des hommes pour pouvoir créer la possibilité que Jésus naisse à tel moment. Dieu a décidé qu'il allait naître à tel moment. Dieu a décidé que ça allait se passer comme ça. D'accord? Ses desseins sont arrêtés. C'est ça que les Écritures me disent. Deux choses peuvent amener un homme à changer d'avis et à bouleverser ses plans. Le manque de prévoyance dans l'élaboration ou l'imprévoyance dans l'exécution. Mais Dieu, parce qu'il est à la fois omniscient et omnipotent, n'a jamais besoin de revenir sur ce qu'il a décrété. Alors, si vous avez de la difficulté avec ça, lisez les psaumes. Cherchez les desseins de Dieu, cherchez les décrets de Dieu dans les psaumes. Dans les livres prophétiques aussi, vous allez voir, c'est répété à d'innombrables reprises. Maintenant, si vous êtes en mesure de philosopher un petit peu plus, vous allez aboutir la fin de l'équation lorsque vous essayez d'imaginer qui est Dieu. Il faut qu'il soit immuable et immuable dans ses desseins. Autrement, il est Dieu moins, et pas Dieu. D'accord? Donc, ses desseins sont complètement arrêtés. Le Fils de Dieu ne change pas. Simplement pour pointer vers Christ qui est Dieu le Fils. D'accord? Et il nous est présenté comme ça, spécialement dans le livre de l'Apocalypse. Et ça, ça devrait faire partie de notre quotidien. Ça devrait m'aider à gérer mes inquiétudes, mes peurs. Oui, Simon. De l'homme ou de Dieu? OK, vas-y. Oui. La question de Simon, c'est lorsqu'on aborde cette question-là, le conflit qui vient dans notre intelligence, même dans notre capacité de comprendre, c'est la liberté de Dieu de faire tous les choix. Est-ce que ça veut dire que nous, on n'a aucune liberté de faire des choix? Est-ce qu'on est responsable de nos choix? Ça ressemble à ça, en gros, là. Comment on règle ça? Puis est-ce que ça veut dire qu'il faut juste jamais se poser cette question-là parce que c'est irréconciliable? Ma réponse à moi, OK, je vais te donner ma réponse. Il y a toutes sortes de réponses. Il y a toutes sortes de réponses. C'est une théologie plus arménienne, OK, tu vas dire, non, Dieu est souverain, mais Dieu prend toutes ses décisions juste parce qu'il connaît l'avenir. Ça, c'est la position arménienne. C'est sur la base de la préscience, Dieu, connaissant l'avenir, prend toutes ses décisions. Ça va un petit peu vers le open theism, c'est de là qu'est sorti le open theism, d'accord? Ce que je parlais tantôt, ça va? Ma position à moi, c'est une position qui est plus calviniste dans la compréhension de Dieu. Je dis non, Dieu est entièrement souverain. Et Dieu, par exemple, la question qui brûle tout le monde, c'est l'élection. Moi, je crois dans l'élection peu. Dieu m'a choisi parce que. Pas parce que je suis beau, pas parce que j'allais faire les bons choix. Il n'a pas regardé dans le futur en disant, je pense Yannick va faire le bon call, je vais lui faire grâce à celui-là. Ça voudrait dire, selon moi, qu'il y a déjà un peu plus de bon en moi qu'en toutes les personnes pour qui je prie depuis 20 ans. D'accord? Donc, je ne peux pas accepter cette vérité-là parce que pour moi, ce n'est pas ça qu'il y a dans les Écritures. Et donc, comment est-ce que je vis ça? Moi, je crois dans la souveraineté de Dieu puis je crois que l'être humain est responsable de ses choix. Je ne crois pas qu'on est des automates. D'accord? Personnellement, je l'accepte avec mon cœur. La même manière que j'accepte avec mon cœur que je suis pécheur, la même manière que j'accepte avec mon cœur des choses comme Dieu a demandé aux hommes d'exercer le leadership dans l'Église. Puis je parlais avec ma femme, puis des fois, je disais, elle est tellement plus intelligente que moi. Ça serait mieux que ce soit elle qui run le show. Mais Dieu a décidé que c'est comme ça, fait que j'accepte cette vérité-là. C'est pas, pour moi, ce n'est pas une question de compétence ou de qualité. C'est parce que Dieu l'a prescrit comme ça. Donc, j'en ai des dizaines de questions comme celle-là. Si vous voulez jongler avec une question difficile, celle que je ramène souvent, c'est, oui, mais si Dieu savait tout ça, pourquoi est-ce que Dieu... Parce que même lorsqu'on va avec la question de la préscience, vous avez encore un gros problème, OK? Si vous dites, moi, je ne peux pas accepter la bonté de Dieu si Dieu est absolument souverain puis a choisi tout le monde par élection peu. Là, je sais là, que j'ai perdu 10 % de la salle, là, mais en même temps, vous m'écoutez. Intéressant. Ça veut dire que Dieu m'a choisi juste parce qu'il m'a choisi, pas parce qu'il savait que j'allais faire les bons choix. L'autre position a dit, Dieu m'a choisi parce qu'il savait que j'allais faire les bons choix. C'est pour ça qu'il m'a choisi. Ça, c'est celle qui repose sur la préconnaissance ou la préscience de Dieu. Mais donc, ça veut dire, si je crois que les Écritures sont vraies et qu'il y a peu d'élus, ça veut dire que Dieu a choisi consciemment de créer des milliards et des milliards et des milliards de personnes qui vont donner pour l'éternité. Est-ce que j'ai encore un bon Dieu? Alors que sachant à l'avance lesquels allaient refuser, il y avait juste à ne pas les créer. Moi, je crois que l'âme est éternelle. Hein? Je crois que pour l'éternité... Puis c'est ça que la Bible enseigne. Pour l'éternité, ceux qui vont être damnés éternellement. Est-ce que je suis encore en face d'un Dieu bon si, sachant à l'avance que tous ces êtres-là allaient rejeter Dieu, il a décidé de les créer quand même? Est-ce que je suis encore devant un Dieu bon? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Je crois qu'il y a des choses que je n'arrive pas à saisir. Il y a des choses sur la personne de Dieu que je n'arrive pas à saisir. Entre autres, et je pense que c'est la plus importante, je ne comprends pas la sainteté de Dieu. Je ne comprends pas la gloire de Dieu. Pour moi, Dieu est glorieux si Il rentre dans mes catégories. Pour moi, Dieu est bon s'il est bon à mes yeux. Et une des difficultés, là, si on se rend à la prochaine leçon, une des difficultés avec notre époque, c'est que pour nous, puis vous ne réalisez pas à quel point c'est vrai, là, dans notre esprit, à nous, l'être humain, c'est le summum de l'univers. Notre intelligence, c'est le summum de l'univers. Et donc, Dieu est acceptable si Dieu est raisonnable pour moi. Dieu est un être acceptable puis que je vais aimer s'il satisfait ma raison. C'est le mouvement humaniste qui dit finalement, n'est vrai que ce que j'arrive à saisir. Le reste, ce n'est pas nécessairement vrai. Les mystères, ça n'existe pas. Les mystères sont juste là pour que l'esprit humain les saisisse. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a descendu Dieu. On a dit, Dieu, je vais te suivre si c'est raisonnable de saisir qui tu es. Le problème avec ça, c'est, est-ce bien raisonnable pour un être humain limité comme moi de dire que je dois saisir l'infini? Est-ce que c'est raisonnable, ça? Jay, est-ce que tu te comprends toi-même?
Non.
Moi, ma femme ne me comprend pas, je ne me comprends pas, mes enfants ne me comprennent pas. Ma seule sécurité, c'est que Dieu me comprend.
Amen.
Mais, je vais dire à Dieu, je vais te suivre, je vais marcher avec toi si je te comprends. C'est drôle, j'accepte de vivre avec moi-même, par exemple. Je suis plus exigeant avec Dieu qu'avec moi-même. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu, d'accord? Alors, pour revenir et terminer ma réponse à la question de Simon, comment est-ce que je vis avec cette réalité-là? Personnellement, j'accepte ça. Parce que pour moi, c'est là dans la parole. J'accepte ça profondément dans mon cœur. Et je dis à Dieu, révèle-toi à moi. Puis plus je saisis un peu plus ces nuances-là, un peu plus ces subtilités-là, plus je suis en amour avec Dieu. Plus je découvre la beauté de Dieu. Alors pour moi, la croix, c'est facile à accepter. Avec toutes ses implications, le péché, tout ça, c'est facile maintenant à accepter parce que je me dis, la grâce qui est manifestée à la croix, c'est la plus belle manifestation de la personne de Dieu. Et si ce que Dieu peut nous donner de meilleur, c'est lui, sa personne, il fallait qu'il nous fasse découvrir cet aspect-là de sa personne. Autrement, il aurait gardé encore le meilleur pour lui-même. Mais sa miséricorde à la croix, c'est la plus belle expression de l'être le plus parfait dans toute l'histoire de l'univers. Dieu, la croix, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la personne de Dieu. Et si ça prenait toute la stupidité des hommes, la méchanceté du diable, le péché, la damnation pour arriver là, c'est correct. C'est correct. Parce que je vois la beauté de Dieu. Maintenant, je sais, là, plusieurs d'entre vous, vous dites, aïe, aïe, je ne pensais pas que j'allais dans une église qui enseigne ça. La question, ce n'est pas ça. C'est est-ce que vous êtes dans une église qui enseigne la Bible? Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne? Oui. C'est ça. C'est ça. Fait que Simon dit, à un moment donné, il se posait la question avec son histoire à lui, son histoire personnelle, pourquoi Dieu a permis le péché? La réponse, c'est parce qu'à travers ça, Dieu va être challengé à montrer davantage sa bonté, sa beauté. Laissez-moi l'illustrer d'une autre manière. Est-ce que vous pensez que vous, comme chrétien, qui connaissez l'Évangile, qui connaissez la mort de Dieu le Fils sur la croix, est-ce que vous pensez que vous connaissez quelque chose de plus grand, de plus beau sur Dieu que Adam et Ève lorsqu'ils marchaient dans le jardin? Pour moi, c'est clair que oui. Je vous dis, c'était correct. Ils avaient créé, donc ils pouvaient savoir que Dieu est bon, ils pouvaient savoir que Dieu est généreux, ils pouvaient savoir que Dieu est intelligent. Hein? Quand Adam a vu Ève, il a dit « Oh man! » T'es tout un concepteur, toi. T'es un artiste, mon copain. OK, fait qu'il y a plein de choses qu'il pouvait savoir sur Dieu. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait comprendre c'est quoi la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait saisir la bonté et l'amour de Dieu comme nous, on l'a saisi en Jésus-Christ? Pas du tout. C'est pour ça que dans l'éternité, ce qu'on voit fondamentalement, c'est pas le jardin d'Éden. C'est l'agneau immolé sur le tronc. C'est ça qu'on voit dans l'éternité, dans l'Apocalypse. Ce qu'on va célébrer, c'est pas un champ de pâquerettes avec monsieur et madame tout nu. Ce qu'on va célébrer dans l'éternité, c'est Christ sur la croix, crucifié, ressuscité d'entre les morts, l'agneau immolé sur le trône. La révélation suprême de la personne de Dieu. Et ça, ça demandait toute cette histoire-là. Ça demandait la bêtise humaine. D'accord? Il nous reste 7 minutes. Je m'excuse, je vais arrêter les interventions-là. On va juste toucher un mot sur la majesté de Dieu. Si tout ce que je vous ai lancé là, là vous dites, aïe, aïe, je suis plus sûr, là. Je pense que je veux devenir raélien. Venez nous voir, d'accord? Juste pour vous diriger vers des bonnes lectures. C'est vraiment sur les attributs de Dieu. OK? Venez nous voir, on va vous diriger vers des bonnes lectures. C'est vraiment, personnellement, c'est un des aspects les plus beaux de ma foi. Je vous le dis, c'est vraiment une grâce extraordinaire pour moi de servir ce Dieu-là qui est tout ça. Ça me rassure, vous ne pouvez pas imaginer comment. Quand je prie pour le salut de mes enfants, je ne prie pas pour le salut de mes enfants de la même manière que vous priez pour le salut de vos enfants si vous pensez que c'est tout entre leurs mains. D'accord? C'est pas comme ça que je prie pour le salut de mes enfants. Ça va? Parce que je crois que Dieu est souverain, parce que je crois vraiment que si les a élus, ils vont être là. Donc, je prie avec une foi qui est différente, qui n'est pas la même. Une confiance en Dieu qui est différente. OK, la majesté de Dieu. Et là, ça adresse toute la question du fait qu'avec le courant humaniste, on a descendu Dieu de son trône, puis on l'a amené à être notre égal dans notre vision de Dieu. Nous avons perdu de vue la majesté de Dieu. Je vais vous demander de lire cette section-là, je n'aurai pas le temps de toute la couvrir, pas du tout, mais juste l'introduire, d'accord? Savoir que son Dieu est un grand Dieu stimule puissamment la confiance et l'adoration instinctive que le chrétien lui porte. Je veux dire, si mon Dieu est grand comme mon frère ici, puis c'est mon égal, bien on s'en va ensemble dans un champ de bataille, on se regarde dans les yeux, puis on se dit, hey, on ne se laissera pas tomber. Mais je veux dire, il va faire ce qu'il peut, puis je vais faire ce que je peux. Ça s'arrête là. Mais si celui qui me précède dans le champ de bataille est majestueux comme l'Éternel, là, j'ai la majesté de Dieu devant moi. D'accord? Là, je m'en vais dans le champ de bataille avec David et son armée au complet. J'ai l'armée des États-Unis qui me précède, puis là, moi, j'arrive après pour passer le balai. C'est ça qui se passe, d'accord? Mais là, si je réalise qui est Dieu, sa majesté, sa grandeur. Et donc, c'est un des aspects de Dieu, c'est que Dieu est majestueux. Il est majestueux. Il est en rien comparable à nous. La grâce qu'il nous fait, c'est de se rendre accessible par nous. D'accord? Notre mot majesté vient du latin qui signifie grandeur. Parler de majesté à propos de quelqu'un, c'est lui reconnaître une certaine grandeur et exprimer le respect que l'on éprouve à son égard. Par exemple, Sa Majesté la Reine. C'est tellement plus présent dans notre esprit que pour nous, tous ces gens-là sont méprisables, bien souvent dans l'humour populaire, tout ça, c'est ça qu'on entend, même dans nos cœurs parfois. Dans le contexte biblique, le mot majesté exprime la grandeur de Dieu, notre Créateur et notre Seigneur. Psaume 145, 5, « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. » Pourquoi est-ce qu'on se rassemble le dimanche matin juste pour chanter la gloire de Dieu? Juste pour chanter la gloire de quelqu'un qui est infiniment plus grand que nous, qui est majestueux. Au haut de la page 5, savoir que son Dieu est un grand Dieu stimule puissamment la confiance, l'adoration instinctive que le chrétien lui porte. Mais cette connaissance fait cruellement défaut aux chrétiens aujourd'hui. Et c'est ce qui explique en partie la faiblesse de notre foi et la médiocrité de notre adoration. Nous sommes des hommes modernes et les hommes modernes ont par principe une piètre opinion de Dieu et une haute opinion de l'homme. Et lorsque je suis en train de douter de la parole de Dieu, lorsque je suis en train de douter de la fidélité de Dieu, je suis en train d'exprimer le fait que j'ai une piètre opinion de Dieu et j'ai une haute opinion de moi-même. Quand je décide de ne pas commencer ma journée dans la prière, quand je décide de ne pas recommander mes projets à l'Éternel, je suis en train d'exprimer le fait que j'ai une haute opinion de mon intelligence et j'ai une piètre opinion de Dieu. Je veux dire, si tu avais, je vais prendre le président des États-Unis, là, c'est à peu près ce qu'on a de plus puissant. Si tu avais le président des États-Unis, au bout, tu sais, s'il était dans tes numéros favoris sur ton cellulaire, puis quand tu le signales, il répond à toutes les fois. Moi, j'ai une couple de personnes là, dans ma vie, là, quand le téléphone sonne, c'est sûr que je réponds. Tout le temps. Il n'y aura pas de boîte vocale pour eux. Il faudrait que je sois en train de célébrer un mariage ou prêcher pour que ça ait sa boîte vocale. D'accord? Je vais toujours répondre. Alors imaginez que vous avez le numéro du président des États-Unis, puis quand vous signalez, c'est sûr qu'il répond. Tu as un gros projet, tu vas-tu prendre un café avec? puis tu voudrais faire quelque chose qui va changer des choses dans la vie des gens, tu vas-tu demander juste de... Tu toucherais-tu un petit mot dans les médias cette semaine pour dire « Hey, le projet de Yannick, c'est vraiment bon. » Bof, non, je vais faire ça par moi-même, j'ai pas besoin de lui. C'est le fun, on se croise dans les soupers à Noël, tu sais. Le dimanche matin de Noël, j'ai dit « Je t'aime Jésus. » C'est correct. Mais j'ai pas besoin de parler plus souvent que ça. Alors voyez-vous, quand on recommande pas nos projets à l'Éternel, quand on cherche pas à grandir dans notre vie de prière, quand on cherche pas à aller lui recommander nos journées. Martin Luther disait « J'ai tellement de travail à faire dans une journée que je peux pas faire moins que 2 heures de prière le matin en me levant. » C'est ça qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il se disait « C'est trop grand pour moi. J'ai besoin de la majesté de Dieu dans mes projets. J'ai besoin que le Dieu majestueux me précède en toutes choses. C'est trop grand pour moi, mais pas pour lui. » Alors voyez-vous, cette idée qu'on a, on a débarqué Dieu de son trône, puis on s'est mis égal avec Dieu, ça va se manifester lorsque tu parles avec un non-chrétien. Parce que lorsque tu parlais avec un non-chrétien il y a 300 ans, c'était pas la même chose. Il te parlait de Dieu en disant « Si Dieu existe, Dieu est extraordinaire. Parle-moi de ce Dieu-là, j'aimerais entendre parler de lui. » Ou peut-être qu'il le rejetait. Mais on est plus tard dans l'histoire de l'humanité, et pour nous maintenant, c'est juste ce qui fait du sens à notre esprit, qui est raisonnable, qui est acceptable. Alors aujourd'hui, lorsqu'on va jaser avec quelqu'un de Dieu, ils vont me dire « Explique-moi ce Dieu-là. » Maintenant, l'humain n'est pas honnête avec lui-même. Souvent, on leur explique ce Dieu-là, on leur explique la croix, ils trouvent ça génial. Fait qu'avec la raison, ils disent « Wow, c'est vraiment hot. Je l'appellerai si j'ai besoin de lui. » Donc avec la raison, ça va, ils trouvent que la foi chrétienne est très raisonnable, vraiment intéressante. Mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas saisi la majesté de Dieu. Alors, je vous invite à terminer la lecture des notes. La semaine prochaine, on passe à d'autres attributs de Dieu, d'accord? On va terminer avec un mot de prière. Éternel, notre Dieu, on a traité de sujets lourds, Seigneur, et importants ce matin. Pour plusieurs, ces sujets-là sont troublants. Pour moi-même, Seigneur, c'est l'objet de mon adoration constante devant toi. Et ta parole nous parle abondamment, Seigneur, de ton immutabilité, du fait que tu ne changes pas, que tes desseins ne changent pas, que tu ne changes pas dans ton être. Nous parle de ta majesté, de ta grandeur. Je te prie, Père, dans ta grâce, de nous révéler ces qualités de ta personne cette année, alors que nous lisons les Écritures. Aide-nous à être attentifs, à les voir apparaître et viens, Seigneur, les placer dans notre cœur, dans notre intelligence, pour qu'on puisse apprécier, Seigneur, qui tu es dans toute ta majesté. Ce matin, on va passer un temps de louange dans quelques instants, un temps dans ta parole. Seigneur, viens nous convaincre par ton Esprit Saint, dispose-nous au cœur à adorer celui qui n'est pas en train de devenir, mais celui qui est. À adorer ta majesté, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.